femme, chronique du matrimoine breton.
Après avoir rencontré la navigatrice Marie Tabarly, j'ai eu envie d'aller voir plus loin, de faire des recherches sur celles qui ont mis les voiles, élargi et conquis de nouveaux horizons. Les voyageuses, les intrépides, les ambitieuses.
La Bretagne est un pays maritime, elle a toujours tiré sa richesse de la mer et des échanges. Et donc je crois qu'il y a quelque chose qui pousse toujours les Bretons à voyager, à aller explorer, tout en étant content souvent de revenir et de ramener plein de choses, des expériences ou des objets.
Erwan Chartier est journaliste et historien, spécialiste de la Bretagne et des pays celtiques. Je lui ai demandé quelles étaient les raisons qui poussaient les Bretonnes et les Bretons à quitter leur région au début du XXe siècle, grande période d'immigration.
Alors, c'est vrai que la Bretagne du début du XXe siècle, elle est en crise. Il y a une très forte poussée démographique, donc des familles nombreuses, une agriculture qui va rester à la traîne jusqu'aux années 60, donc peu développée, donc ce qui va favoriser une immigration assez massive, notamment vers Paris et la région parisienne. Pour les femmes, c'est l'époque d'immigration aussi féminine sur Paris, avec la figure de la bonne bretonne, la domestique, jusqu'aux années 50 d'ailleurs. La figure qui reste mal acceptée en Bretagne et pas si populaire, c'est Bécassine, un peu simplette, pas éduquée suivant les standards bourgeois parisiens de l'époque.
Parmi ces femmes qui sont montées à Paris, je me dis qu'il ne devait pas y avoir que des Bécassines, qu'il y en avait forcément qui ont osé partir la tête pleine de rêves et d'ambitions. Alors je me suis rendue à la maison du théâtre amateur, à Rennes, pour questionner Élise, sa directrice, et également membre de HF Bretagne.
Salut Élise. Ça va bien?
Ça va bien et toi?
Ça va.
Eh bien Élise, moi je suis venue te voir pour savoir s'il y avait des comédiennes qui ont quitté la Bretagne pour jouer sur les planches parisiennes ou ailleurs.
Oui, alors comme beaucoup de personnes qui ont participé à l'exode rural en Bretagne vers Paris, les comédiennes et les autrices aussi de théâtre ont pu avoir des déplacements dans leur carrière. J'en citerai peut-être deux. Une dramaturge qui s'appelle Marie Leneyru, qui est née à Brest. Qui est née à Brest en 1875 et dont les pièces étaient jouées, et notamment à l'Odéon à Paris, et dont les pièces étaient au 19e et début 20e très jouées. Et puis une autre alors comédienne, celle-ci, Marie Dorval, qui est extrêmement célèbre au théâtre au 19e siècle. Une héroïne du théâtre romantique, Victor Hugo. Elle a joué dans Hernani à Paris. Et peu de gens savent qu'elle est née à Lorient. Alors sans doute un peu par hasard, parce que ses parents étaient dans une troupe itinérante qui voyageait dans toute la France. Mais en tout cas, cette Marie Dorval, grande star de l'époque, est bien née à Lorient.
Pour celles qui voyaient leur vie et leur carrière en grand, il a fallu savoir partir. À Paris, souvent, mais aussi plus loin, comme en Amérique du Nord, à la conquête d'une vie libre, loin d'une région jugée trop petite pour contenir tous les rêves.
On a quelques Bretons qui sont aussi partis jusqu'en Californie, notamment Louise Rioux. Ses parents partaient travailler chez Michelin. Elle s'est retrouvée orpheline assez rapidement, et donc elle, c'est entre 1920 et 1930, elle arrive à Hollywood. On a quelques photos d'elle. Elle a joué aussi quelques second rôles dans des films de l'époque. Donc on est encore dans le cinéma muet, en noir et blanc. Hein. Et puis après 1930, elle disparaît. On ne sait pas trop ce qu'elle est devenue.
Une fois n'est pas coutume, en essayant d'approfondir un peu plus les recherches, j'ai été confrontée au manque de sources. Même en interrogeant Véronique Lebrise, rédactrice en chef du web magazine Cinewoman, et à l'origine du prix Alice Guy.
Je voulais vous rencontrer pour savoir si vous connaissiez des femmes bretonnes qui ont quitté la Bretagne pour se faire connaître à Paris dans le milieu du cinéma et de la comédie.
Ah non, à mon grand désespoir en fait et à mon grand désarroi, je me suis aperçue que la liste de noms que vous m'avez gentiment donnée m'était à peu près inconnue. Enfin, Marie Dorval, ça me disait vaguement quelque chose. J'avais entendu parler de, alors qui n'est pas dans le cinéma, de Suzy
Solidor.
Voilà, Suzy Solidor, parce que j'ai vu un documentaire en fait sur les reines de la nuit dans les années 20. Donc je me souvenais d'elle et j'avais noté qu'elle était bretonne. Et vous avez fait allusion surtout à Marie de Kerstrat, voilà, dont j'avais jamais entendu parler. Donc j'ai un peu cherché, je me suis un peu renseignée et j'ai juste découvert que ce qu'elle avait fait, c'était extraordinaire. Et je crois que je vais aller fouiller un peu plus.
Encore inconnue.
Aujourd'hui, si on cherche encore des femmes comédiennes venant de Bretagne, parties faire leurs armes à Paris, on peut citer, venant de Morlaix, deux fortes personnalités. Dominique Lavanant et Brigitte Fontaine, la chanteuse qui a commencé en tant que comédienne en jouant la cantatrice chauve au théâtre de la Huchette. Sur les scènes parisiennes du Music Hall, on trouve plusieurs voix bien connues aux origines bretonnes. L'une d'elles était surnommée l'Amiral, ou la Madone des Matelots.
Sur ta demeure, moi, caché dans l'ombre, je t'attends.
Il s'agit de Suzy Solidor. Née en 1900 à Saint-Servant en Ille-et-Vilaine, elle décide très vite de monter à Paris. Là-bas, elle devient une véritable icône du Music Hall, une muse, une figure LGBT. Pour en apprendre un peu plus sur ce personnage fantasque, j'ai rencontré Suzanne Hélène, metteuse en scène, qui travaille actuellement sur un spectacle consacré à Suzy Solidor.
Ce que l'on sait, c'est qu'en 1916, donc à l'âge de 16 ans, elle a son permis de conduire. Ce qui est quand même un fait absolument exceptionnel à l'époque. Je pense qu'elle avait une personnalité déjà très 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 affirmée. Et en tout cas, c'est certainement ça qui a fait qu'en 1918, elle part à la Grande Guerre, entre guillemets, pour conduire des taxis de la Marne, qui devaient être, quand on se remet dans le contexte, rarissimes, quoi. En tout cas, ce qu'on le sait, c'est qu'elle n'est pas allée à Paris pour chanter, puisqu'elle a commencé à chanter en 1929, donc à l'âge de 29 ans. Donc pendant longtemps, donc, elle est allée à Paris, elle a rencontré Yvonne de Brémondars, qui était une grande antiquaire et une femme aussi assez étonnante, et qui va la façonner, qui va être son mentor, qui va être son Pygmalion.
Chaque femme, je la veux, des talons jusqu'aux cheveux, j'emprisonne dans mes voeux.
Elle va en faire ce qu'elle est devenue par la suite, un modèle extraordinaire. Donc ce n'est que beaucoup plus tard qu'elle va commencer à chanter. Et les premiers essais qu'elle va faire, c'est à Deauville en fait. Elle va chanter à Deauville et au Havre, et donc loin de Paris, mais probablement pendant la saison. Et puis ensuite, elle va revenir à Paris et elle va ouvrir ce cabaret qui s'appelle La Vie Parisienne.
Je me vautre sur leur flanc, ivre du parfum troublant, qui monte les ventres blancs vers mes narines.
Sa voix est assez voilée. On dit que c'est une voix masculine, je ne trouve pas. Je trouve que c'est vraiment une voix de femme, mais un peu plus grave, un peu moins marquée sur les rrrr, les plus moderne. Voilà, je trouve que sa voix est passe mieux aujourd'hui, elle est moins caricaturale. Peut-être que c'est pour ça qu'elle est moins connue, elle est moins typée d'une époque, quoi.
Pourtant, elle a beaucoup inspiré durant ces années-là, notamment les peintres.
Ah là là, oui. Ah, il faut regarder. Il y a des peintures, il y a des dessins, il y a des... Ah, absolument extraordinaire de Suzy Solidor. Il y a des portraits fabuleux.
Combien de portraits ont été faits?
Alors, je crois, il y en a plus de 200. Je pense qu'on est autour de 230-240 portraits, ce qui est énorme. Et elle a été vraiment l'égérie, le modèle de peintre très, très, très connu. Il y a c'est assez étonnant. Et que ce soit des photographies, parce qu'il n'y a pas que des peintures, il y a beaucoup de photographies, on la voit en pied. C'est une sculpture, quoi. C'est une très grande femme, je ne sais pas combien elle mesurait exactement, mais un peu plus carré qu'une... C'est pas la petite fille, c'est pas la petite chose qu'on a envie de protéger. Voilà, en clair, c'est ça. C'est une femme qui se pose là. On sent bien qu'elle n'est pas victime.
Ma langue enfouille les plis et sur les torses polis, buvant les divas oublis, j'endors mes fièvres.
Est-ce qu'elle aurait pu avoir cette vie si elle était restée en Bretagne?
Franchement, je ne pense pas. Franchement, je ne pense pas. Il fallait, avec sa personnalité et ses aspirations, je pense qu'elle a eu raison de rejoindre un cercle d'artistes parisiens au sein duquel il était plus facile d'affirmer de telles personnalités. Je pense que ça n'a pas dû être facile non plus. Mais en Bretagne, quel avenir aurait-elle eu, franchement ? L'homosexualité dans nos provinces n'était pas forcément une chose facile à vivre.
Après avoir tenu plusieurs cabarets, Suzy Solidor finit sa vie à Cagnes-sur-Mer, dans le sud, en tant qu'antiquaire. Des Bretonnes qui ont fait carrière dans le music hall, il y en a d'autres. Erwan Chartier, journaliste, nous raconte comment Fréhel a, elle aussi, marqué les années folles.
Alors Fréhel, elle est née en 1891 à Paris, mais ses parents sont bretons, ils ont immigré justement pour trouver du travail. Son père était cheminot, sa mère était concierge. Et donc, elle grandit dans les quartiers populaires de Paris. Et à 15 ans, elle commence à chanter en music hall. Et elle va devenir une des stars du music hall avant la Première Guerre mondiale. Elle enregistre même un premier disque en 1908, pas banal à l'époque. Par contre, elle a une vie très mouvementée, un mariage jeune avec un divorce rapide. Elle aura une relation aussi avec Maurice Chevalier, une des stars de l'époque. Et après la Première Guerre mondiale, elle va connaître un déclin, notamment parce qu'elle tombe dans l'alcoolisme et la drogue. Je sais plus quel auteur avait dit que Joe Starr était un gentil garçon par rapport à la vie de Fréhel. Et après la Première Guerre mondiale, elle a une période très difficile où elle part se produire en Turquie, en Europe de l'Est, où elle finira par être rapatriée par l'ambassade de France au milieu des années 20. Par contre, après la Seconde Guerre mondiale, elle disparaît. J'étais tombé sur quelques témoignages sur elle qui racontaient qu'elle était vraiment tombée dans l'alcoolisme et elle mourra dans la misère en 51.
Par leur allure, leur liberté, leur orientation sexuelle, les femmes ambitieuses et très souvent dérangeantes pour la société sont confrontées à de nombreux obstacles. Pour réaliser certaines conquêtes, partir représente parfois la seule solution.
Ils sont considérés aujourd'hui comme les meilleurs projectionnistes ambulants à la fois aux États-Unis et au Canada.
Il y a encore quelques années, le nom de Marie de Kerstraat était totalement inconnu. Pourtant, son histoire, c'est l'aventure incroyable d'une Bretonne partie à la conquête de l'Amérique. Née en 1841 à Briec, dans le Finistère, elle est issue de la bourgeoisie bretonne. Pour en parler, j'ai rencontré Serge Duigou, co-auteur du livre Marie de Kerstraat, l'aristocrate du cinématographe.
En 1882-84, il y a un premier tournant important dans sa vie, c'est qu'elle hérite d'une somme d'argent assez importante, d'une vieille tante. Et avec cet argent, elle a l'idée pionnière à l'époque, de faire construire des villas sur les bords de l'estuaire de la rivière de Pont-l'Abbé, à l'Octudie, pour accueillir des touristes.
À cette époque, le tourisme en pays bigoudin n'existe pas. En faisant construire ces villas et en mettant en place des animations comme des sorties en mer ou des fêtes, Marie de Kerstraat devient la pionnière du village vacances. Mais elle devient aussi la pionnière dans un autre domaine. Et pour celui-ci, elle traverse l'océan.
Alors là, c'est une aventure quand même assez étonnante, hein, pour ne pas dire fabuleuse. En 1897, elle est veuve, elle vient de perdre son mari, elle a 56 ans, elle a un fils unique qui s'appelle Henri de Grandseigne d'Autrive. Et c'est Henri qui a l'idée de devenir projectionniste ambulant des premiers films, muets évidemment de l'époque, les films de Lumière, les films de Méliès, les films de Pathé, et projectionniste ambulant en Amérique. Donc ils traversent l'Atlantique tous les deux en octobre 97 et ils se retrouvent au Canada, se retrouvent à Montréal, et là pendant plusieurs années, ils vont devenir projectionnistes ambulants. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y a pas de salle de cinéma permanente, hein. Ça n'existe pas, nulle part au monde. Et donc quand on projette des films de manière foraine, quoi, ambulante, on loue des salles de spectacle, des théâtres, et ils vont mener tous les deux cette vie aventureuse. En fait, ils sont de grands professionnels tous les deux. Ils se complètent très bien parce que la mère a le sens des affaires, elle a les pieds sur terre, elle a une rigueur financière, etc. Et le fils, c'est un bon parleur, c'est-à-dire c'est un bonimenteur hors pair parce que ses films sont muets. Donc évidemment, il faut les commenter. Et lui, il a un bagout extraordinaire. Donc il devient le premier des bonimenteurs de l'histoire du boniment cinématographique. C'est lui qui l'a inventé. En plus, ils ont l'idée de faire coloriser leurs films à Paris par un atelier spécialisé de Madame Thuillet. Donc leurs films sont en couleur déjà. Ils ont un excellent bonimenteur. Ils ont les services d'un pianiste, donc il met une ambiance musicale. Ils ont un excellent appareil de projection qui ne fait pas trembler l'image, contrairement à beaucoup d'autres appareils.
Et c'est un appareil acheté aux Frères Lumière, justement.
Voilà, tout à fait, aux Frères Lumière, donc à Paris, dans la succursale parisienne des Frères Lumière. Bref, ils sont les meilleurs projectionnistes ambulants d'Amérique du Nord de l'époque. Ça va être un gros succès jusque dans les années 1906-1907. Et là, ils vont être en butte à la concurrence.
Marie de Kerstraet et son fils continuent ensuite leur périple de projectionnistes ambulants. Ils finissent par se sédentariser et ouvrent des cinémas, comme à Boston, à Atlantic City, dans le Missouri ou encore à Broadway. En 1910, face à la concurrence américaine de plus en plus puissante, le duo quitte le territoire américain et ouvre des cinémas aux Bermudes et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Finalement, ils rentrent en France en 1913. Marie de Kerstraet est alors âgée de 72 ans.
Pour autant, ils prennent part à leur retraite, ils s'installent à Saint-Malo, et là, vous n'allez jamais deviner ce qu'ils ont fait, ils ouvrent un cinéma à Saint-Malo. Mais, alors là, il y a un mais quand même. Pour une fois, ils sont les seconds, ils ne sont pas les premiers. Il y a déjà un cinéma à Saint-Malo, et deux cinémas à l'époque pour Saint-Malo, c'est un trop, parce qu'il n'y a pas une production cinématographique suffisante pour qu'il y ait une concurrence comme ça. Et donc, finalement, bon, ils vont fermer leur cinéma, le Saint-Pierre à Saint-Malo, mais la guerre arrive de toute façon.
Marie de Kerstraet finit par revenir vivre à Pont-l'Abbé, où elle décède à 79 ans en 1920.
C'est une histoire fabuleuse. C'est une histoire fabuleuse parce que Marie de Kerstraet et son fils ont porté vraiment la qualité cinématographique française à son sommet, quoi, aux États-Unis et au Canada. Mais dans le pays bigoudin, en Bretagne, ils étaient tombés totalement dans l'oubli, y compris dans leur famille d'ailleurs.
Et ce n'est que récemment que la figure de Marie de Kerstraet est sortie de l'oubli. En 1984, Serge Duigout rencontre l'historien canadien Germain Lacasse qui lui fait découvrir les deux personnages, Marie de Kerstraet et son fils Henri de Grandsaigne d'Hauterive. Aujourd'hui, Serge Duigout continue d'animer des conférences sur celle qu'il surnomme « la femme de sa vie » afin de maintenir vivante la mémoire de Marie de Kerstraet.
Elles ont quitté la Bretagne pour découvrir un autre monde et bien sûr certaines sont allées vers l'art.
La voix que vous entendez est celle de la sociologue Anne Guillou. Je l'avais rencontrée au tout début du travail sur cette série documentaire et déjà elle avait souligné le fait que souvent l'émancipation était liée au départ.
Certaines sont allées vers l'école des Beaux-Arts à Rennes, d'autres vers Paris. Et elles ont pu échapper au sort qui sans doute les attendait, un mariage, des enfants et une vie très sédentaire.
Si certaines choisissent de partir dans de plus grandes villes, d'autres décident de véritablement mettre les voiles, de voyager et d'en faire leur mode de vie. Car le départ n'est pas toujours motivé par des raisons économiques ou le désir de quitter un milieu trop pesant. Erwan Chartier, journaliste, explique qu'il y aurait chez les Bretonnes et les Bretons un instinct voyageur.
Chez les Bretons, souvent, il y a la proximité de la mer fait qu'il y a un instinct voyageur qui est toujours très développé, quoi. La mer et le voyage ont toujours été des sources de richesse pour la péninsule, donc c'est assez logique que beaucoup de Bretons et de Bretonnes soient partis.
Parmi celles qui sont parties, on compte une audacieuse ethnologue. Son nom est Odette du Puy-Godot.
Odette du Puy-Godot est née à la fin du 19e siècle dans une famille en Loire-Atlantique d'artistes. La mère était musicienne, son père a été un des peintres de Pont-Aven. Après la Première Guerre mondiale, elle part à Paris, elle va travailler notamment comme styliste chez Jeanne Lanvin aussi. Et puis, dans les années 20, elle devient journaliste, elle a une très belle plume, tout en suivant des cours d'ethnologie. Dans les années 30, en 33, elle part en Mauritanie avec sa compagne Marion Sénon, qui était aussi journaliste, originaire de Rennes aussi. Et donc, elle part en Mauritanie, où elle va faire un certain nombre d'expéditions chez les Touaregs. Toutes les deux, elles font quand même 4500 km dans le désert, sans voir un Européen. Elle est quand même un sacré courage et un courage physique, parce que traverser le Sahara, à l'époque, en dromadaire ou à pied. Et là, il y a une rencontre avec les peuples touareg, et je crois que sa dimension de bretonne, parce qu'elle avait quand même eu une réflexion aussi sur les colonisations intérieures et colonisations extérieures, et son regard de bretonne l'a fait mieux accepter dans la société. Elle reste la dame bretonne en Mauritanie, où elle va revenir très régulièrement. Elle s'installera aussi au Maroc, à Rabat. Et justement, ce fait d'être issue d'une minorité, elle-même lui a ouvert aussi des champs et des horizons en Afrique du Nord et en Afrique saharienne.
De ses voyages, Odette du Puy-Godot laisse des dizaines de livres.
un sur la Bretagne, bien sûr, intitulé « Grandeur des îles », mais aussi plusieurs sur la Mauritanie ou le Maroc.
« Pieds nus à travers la Mauritanie », c'est un texte d'aventure, quoi. On voit le courage de ces deux femmes. On voit aussi leur grande sensibilité aux cultures touareg et nomades de ces régions.
C'était notre première étape nocturne, la première fois que le Sahara nous montrait son visage des grandes nuits de lune. Nous en étions éblouis. À travers le paysage translucide, les chameaux foulaient sans bruit de longues herbes d'argent. Des dunes lumineuses émergeaient de gouffres sombres et se dissolvaient à l'approche pour surgir de nouveau, plus loin. Il n'y avait pas un souffle, pas un murmure, aucune sensation de chaleur ni de froid. Rien que l'impression angoissante d'avancer dans un monde enchanté parmi de phosphorescents mirages.
Pour moi, l'universalité d'une littérature, c'est une littérature qui rend compte de notre humanité profonde.
Une formule du poète breton Eugène Guillevic résume très bien les propos de Gaël Perel, spécialiste du patrimoine littéraire. Plus on est enraciné, plus on est universel. Ce qui fait l'universalité d'une œuvre littéraire, c'est bien l'enracinement de son auteur ou de son autrice. Erwan Chartier l'a expliqué, si Odette Dupuis-Godeau et sa compagne Marion Sénon ont été si bien accueillis en Afrique, c'est en partie dû à leurs racines bretonnes. Et il en est de même avec leurs textes. L'œuvre d'Odette Dupuis-Godeau n'aurait pas été la même sans ses attaches à sa région. Et c'est le cas de nombreuses autrices.
Elles ont un rapport très fort à la Bretagne, mais comme le disait Anne Billon, elles ne veulent pas être assignées à résidence. Et elles sont très vigilantes, et elles peuvent, parce que leur talent les porte à ça. Et il faut absolument dire que ce sont des autrices dont le talent littéraire ou le talent de chercheuse, leur talent d'écriture est un talent tout court. Et puis ensuite, elles disent la Bretagne. Leur écriture est portée par leur environnement. En tout cas, pas d'enfermement, absolument pas. Et bien... rester très vigilant à essayer de faire émerger pour chacune ce qui fait le sel de leur écriture et de leur univers.
Si quitter son village breton peut parfois permettre d'élargir les horizons et de se construire en tant qu'artiste, certaines vont donc plus loin en liant intimement le voyage et l'écriture.
Elle était en avance par rapport à son temps.
En parlant de femmes qui ont intimement lié le voyage et l'écriture, nous ne pouvons ne pas citer Marie Lefranc. Née en 1879 dans une petite commune du Morbihan nommée Banastère, elle a reçu en 1927 le prix Femina avec son roman Grand Louis l'Innocent.
Je m'appelle Colette Baucher et je suis coprésidente de l'association des Amis de Marie Lefranc qui a trouvé naissance en 1997. Marie Lefranc a vécu dans un univers de campagne et de mer. Son père était brigadier des douanes et elle est donc née dans cette caserne des douanes qui donne sur l'océan et qui a constitué la vue, l'horizon de son enfance. Elle a suivi ses études primaires à Sarzeau et puis je pense qu'elle devait avoir les aptitudes, si bien que avec difficulté mais avec réussite, elle a préparé le concours d'entrée à l'école normale d'institutrice de Vannes. Elle a donc réussi et elle a été institutrice. Donc elle a commencé dans la vie par une carrière d'institutrice. C'était en 1898 qu'elle a eu son premier poste et donc à cette époque-là, c'était la seule voie d'instruction pour les femmes puisque que l'enseignement secondaire féminin n'a été créé qu'en 1924.
Ensuite, elle est partie vivre au Canada. On dit d'ailleurs qu'elle était bretonne au Canada et canadienne en Bretagne et que sa vie était un perpétuel exil. Qu'est-ce qui l'a poussée à quitter la Bretagne?
Je pense une attirance pour le Canada. Elle avait une vie épistolaire très intense. Elle correspondait avec un journaliste canadien, Arsène Bessette, mais aussi avec une autre femme qui s'appelait Idola Saint-Jean et qui était féministe. Donc, elle a été attirée par la liberté que représentait le Canada. C'est pas seulement une page qui se tourne par rapport à la Bretagne, ce sont des pages nouvelles qui s'ouvrent et qui lui avaient été inspirées par les grands espaces, c'est ce qu'elle écrit. Et donc elle avait conservé cette envie des grands espaces et de découverte d'autres pays avec d'autres d'autres habitudes et surtout d'autres perspectives de liberté.
On dit qu'elle est partie pour ce journaliste, justement, et que là-bas, elle a été très mal accueillie.
Ah ben, elle n'a pas été accueillie du tout. Hein. Elle arrivait d'un grand voyage. Elle avait pris le bateau au Havre. Elle avait traversé jusqu'à New York. Ensuite, elle avait eu tout un périple entre les États-Unis et le Canada. Et puis, ben, ma foi, entre la réalité et puis le rêve qui était porté par les échanges épistolaires, elle s'est retrouvée complètement démunie, elle avait 100 francs en poche et donc là, elle a dû faire face. Et pour faire face, elle a écrit des nouvelles qu'elle a publiées, elle a réalisé des entretiens radiophoniques et puis elle a enseigné. Elle a pu enseigner le français.
Et puis, Marie Lefranc décide de tout arrêter pour se consacrer à ce qui l'anime le plus profondément, l'écriture.
Elle était en avance par rapport à son temps. Elle s'est donné le droit d'abord de quitter un métier qui était un métier qui appartenait à l'ascenseur social des femmes à l'époque. Elle a quitté ce métier pour s'engager dans une littérature, mais une littérature qu'elle a voulu libre.
Dans un article sur l'humanisme, Marie Lefranc écrit « Se sentir chez soi dans le domaine littéraire. Une rue où l'on se bat, une grande route sur laquelle on vagabonde, une place publique sur laquelle on fraternise, et surtout un espace illimité où voguent à leur aise dans toutes les directions des oiseaux à tout plumage. » Écrire sans avoir appris, sans avoir voulu, sans avoir cherché, avoir un jour tout jeté par-dessus bord, tout ce qui pesait, tout ce qui brûlait, et pour sauver cela, une plume.
Si vous voulez, l'écriture à cette époque, pour une femme, c'était dans la panoplie des interdits. Hein. Mais ça a été quand même une période décisive. Son prix féminin, dans la foulée, elle a écrit Inventaire, mais qui était une suite de réflexions qui ont eu du mal à être éditées parce que tellement ça paraissait insolite à l'époque. C'est une pensée de femme qui est en avance aussi sur la pensée des hommes. Elle ouvre les portes de toutes les libérations. Hein.
Malgré la pauvreté, les difficultés de vivre de sa plume, Marie Lefranc a écrit toute sa vie. Officier de la Légion d'honneur, elle décède à l'âge de 85 ans dans les Yvelines. À l'instar de Suzy Solidor, de Marie de Carstrat ou d'Odette Dupuy-Godeau, partir lui aura permis d'élargir ses perspectives, de faire preuve d'avant-garde, et ceci dans une poésie toujours extraordinaire.
L'île aux femmes, chronique du matrimoine breton, une série de reportages réalisés par la Corlab en partenariat avec HF Bretagne. À réécouter sur corlab.org.